Les pieds sur terre, Sonia Krönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
Lorsqu'il rencontre à l'université celle qui sera sa future femme, l'attraction est immédiate et mutuelle. Le couple aime les mêmes choses, vient de la même région. Tous deux souhaitent y retourner vivre une fois les études achevées. Tout se passe naturellement et ils se marient une fois leur diplôme en poche. Ils retournent dans la petite ville et ils ont 3 enfants. Ils vivent une vie paisible jusqu'au jour où l'homme se met en tête de retrouver son géniteur biologique. Il découvre alors que sa femme est sa sœur. Les deux époux sont en effet nés chacun à la suite d'une insémination artificielle et ont été élevés par 2 couples de lesbiennes. Le donneur de sperme qui a permis l'insémination de la mère de sa femme est le même que celui qui a permis l'insémination de la sienne. En d'autres termes, sa femme et lui sont nés du sperme d'un même donneur, ce qui les rend biologiquement demi-frères et demi-sœurs. Une fois faite cette découverte étonnante, les deux Américains, ouverts d'esprit, c'est ce que rapporte le site Slate.fr, reprennent pourtant tranquillement leur vie. Ils trouvent seulement la coïncidence amusante. Après tout, leur mariage ne cause de tort à personne et leurs enfants, en pleine forme, ne souffrent d'aucun mal particulier. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, d'autres secrets de famille, révélations sur la filiation, une mère qui n'en est peut-être pas une, 2 filles qui se retrouvent, des histoires racontées par Jérôme Sandler.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Là, on se trouve chez moi, à Limonest, c'est à 15-20 bornes de Lyon. Et je vous présente Fabienne.
Bonjour.
Bonjour.
Là, on est dans la chambre d'ordinateur. Je vais souvent sur Facebook ou sur mes comptes internet. Et un jour, le 15 janvier, bah justement, en consultant mes mails, je tombe sur un message assez étrange d'une amie que j'avais pas vue depuis 2 ans. Siam, ma sœur Marie, m'a envoyé le lien d'un profil Facebook d'une connaissance d'une de ses amies qui est ton sosie. Regarde son nom, c'est Fab Gorge, je te promets, c'est impressionnant. Donc je lui dis, bon bah d'accord, je vais aller voir qui est cette fille. Donc je tape son nom et je tombe sur une de ses photos où elle a les cheveux courts, ici. Et en fait, j'ai eu l'impression de me voir. Sauf que je me suis dit que c'était pas possible parce que je me suis jamais coupé les cheveux. Mais c'était vraiment... c'était un sentiment assez étrange. Donc, du coup, je continue à faire défiler quelques photos. Puis ce que je remarque directement, c'est qu'en fait, on a le même grain de beauté en dessous du nez. Donc, c'est assez perturbant quand même. Donc, du coup, j'envoie un message à Fabienne sur Facebook et je lui dis « Ajoute-moi s'il te plaît, comme ami. » Et après, je lui demande « Est-ce que tu peux m'appeler ?» Et je lui donne mon numéro de téléphone. Je lui dis que c'est très important. Et donc, j'attends. Elle ne veut pas me répondre. Donc là, je lui dis « Est-ce que tu as été adoptée ?» Et là, elle me répond « Oui ». Et du coup, j'ai enchaîné en fait toutes les questions directement parce que j'avais peur que elle me bloque et qu'elle arrête de me répondre. Donc, du coup, je lui dis « Tu es née de quelle année ?» Elle me dit « 1992 ». Je lui demande le mois et le jour. Elle me dit « 4 mars ». Et là, elle me dit « Mais t'es qui ?»
Attends, mais tu me fais « Ajoute-moi, même pas bonjour ni rien du tout
!» Donc là, je lui dis de m'appeler. Elle me dit « Non, dis-moi par mail, tu me fais peur !» Je fais, mais tu as été adoptée à Hanoï, je sais que ça peut te faire peur, je suis du 4 mars 1992 aussi, appelle-moi parce que c'est quand même important, elle me fait t'es une fille, je lui dis, je sais pas, regarde mes photos, tu me ressembles vraiment, je sais que ça fait peur, c'est la grande sœur d'une amie à moi qui t'a vue dans son actualité et elles m'ont contactée. Et là, bon, après on se pose quelques questions sur sa famille, je lui demande ce qu'elle veut faire plus tard, donc elle veut être auxiliaire puéricultrice. Et là, je me suis dit, mais c'est bizarre, parce que moi, quand j'avais 16 ans, je voulais travailler avec les enfants, enfin j'adore les enfants. Ses parents sont agriculteurs,
Quand on s'est appelé, je pense.
Ouais,
là, parce
après,
que,
et après, ça on coup... s'est appelé parce que là. Bon, tu m'as appelé, je crois.
Ça ouais, après, ouais, quand j'ai vu les photos. Ouais.
Et puis, bon, on est resté quand même une heure au téléphone.
Ouais, j'ai raccroché, je suis partie chez une copine pour leur montrer, quoi. Pour leur dire, mais regarde, j'ai une sœur jumelle, quoi. Ils ont tout halluciné. Après, je suis rentrée chez moi à 3h du matin. À 3h, je suis partie réveiller papa et maman. Et là, ils m'ont pris pour une tarée, quoi. Ils sont descendus voir les photos et tout. Regardez et tout, il fait non, mais de toute façon, ils se ressemblent tous là-bas et tout. J'étais là, bah, ok, allez, on va partir se coucher. Lendemain matin, ben, je rentre du boulot. Et là, ils étaient devant l'ordi en train de re-regarder les photos et tout. Et là, ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'étrange qui se passait, quoi, au final. Ouais.
Après, on s'est envoyé des photos de nous quand on était bébé.
Ouais.
Que Fab...
On s'est skypé le lendemain avec nos
oui,
parents.
Voilà. Ah oui, on s'est skypé avec ses parents et mes parents.
Donc, c'était assez... ses parents discutaient, nous on était en train de se regarder oui, comme ça.
Ah oui, c'est vrai. Moi je disais, maman, regarde, elle a la même grande beauté, on a les mêmes dents et tout. Et non, c'était. En fait, on s'observait. Et du coup, bah, Fabienne a décidé de venir la semaine qui suivait.
Ouais, jeudi ou mercredi, je sais plus.
Jeudi, ouais.
Jeudi à Lyon.
Ouais.
Pour qu'on puisse s'en rencontrer.
Et vos parents respectifs étaient d'accord
Mon papa, pas trop au début et tout. Il voulait prendre plus de temps. Il voulait attendre le 15 mars pour faire l'anniversaire ensemble. Mais je fais non, il faut que j'aille la voir avant. Donc voilà.
Du coup, elle est venue à Lyon. Ça a été un moment très émouvant. Parce que ça fait bizarre. De voir en fait son double en face de soi alors qu'on n'a on a jamais...
On s'est jamais connus. Enfin, moi, j'étais en fille unique. Me dire j'ai une sœur jumelle. Déjà, une sœur, voilà. Une sœur jumelle comme moi.
Et de votre côté, alors
Moi, j'ai un grand frère et une petite sœur. Mon grand frère a été adopté en 90 au Vietnam aussi. Et ma petite sœur, c'est la fille biologique de mes parents. Donc maintenant, quand on explique notre famille, c'est un peu compliqué. Avant que Fabienne arrive, j'étais très impatiente, un peu stressée, parce que bon, bah, c'était aussi un peu l'excitation de me découvrir, enfin, d'une autre personne, enfin, c'est bizarre à expliquer. Ça arrive pas tous les jours de rencontrer son jumeau 21 ans après, donc du coup, c'est vrai que c'est un moment très spécial, quoi. J'appréhendais un petit peu aussi.
Et toi, Fabienne ?
J'étais toute excitée, là, de monter dans l'avion et d'arriver à Lyon. Ouais, j'avais le cœur qui battait à 10 000, quoi. Enfin, ça faisait me tarder de sortir, de la retrouver, quoi. Enfin,
moi, ouais. J'attendais derrière la porte, quoi. Ouais. Je voyais les gens sortir, et j'attendais juste de dire, ah, c'est quand est-ce qu'elle arrive? Et non, c'est vrai que c'est un moment très fort.
Je suis sortie de l'aéroport, et là, je la vois. Il y avait toute sa famille, son papa, son frère, sa sœur. Et là, c'était super un sentiment, mais je sais pas, ça faisait trop bizarre, quoi.
Bon, bah, forcément, on a tout le monde à pleurer.
Là, c'était fort en émotion. Hein. Quand je l'ai vu, fou!
Ça fait bizarre de se voir, on fait la même taille, on fait, je sais pas,
faut le vivre.
Tout de suite, on se parlait, on s'est bien entendu, on a, je sais pas, c'est comme si pour nous c'était normal en fait.
Pour moi, le 15 janvier, c'était un jour assez important, donc j'ai décidé de faire un tatouage sur mon poignet en écrivant la date de rencontre de Siam.
Donc, qui a marqué en lettres romaines.
Ouais, en lettres romaines, 15 janvier 2014. Gravé.
À vie.
Ouais.
Est-ce que vous aviez ressenti un manque ou pas?
Moi, oui, quand j'étais plus jeune, j'étais pas très bien. Enfin, ça a commencé en seconde, en fait. Je sais pas pourquoi, j'avais une sorte de mal-être. Et du coup, bah oui, j'ai été suivie par plusieurs psychologues. Tout le monde disait que c'était parce que j'ai été adoptée, que j'avais du mal à le vivre. J'ai fait pas mal de fugues, je séchais les cours, je buvais beaucoup aussi. J'ai aussi eu un accident de voiture sans avoir le permis. Et du coup, je pense qu'en retrouvant Fabienne, bah, ça comble le manque que j'avais eu quand j'étais petite.
Et toi, Fabienne ?
Ouais, j'ai fait pas mal de bêtises aussi. Ouais. J'ai eu aussi un accident de voiture parce que j'étais trop bourrée. Quand j'étais en internat, pendant tout le second semestre, je crois que j'allais plus à l'internat. Des potes qui me logeaient chez eux dans leur appart et tout. Je supportais pas rester toute seule.
Qu'est-ce que vous souhaitez faire l'une et l'autre dans la vie?
Bah, moi, j'aimerais bien ouvrir un restaurant vietnamien. En France ou bah, pourquoi pas à l'étranger, pour l'instant en France.
Ça, ouais. C'est pour Siam.
Voilà, pour moi.
Fabienne.
Et moi, ben, je vais retenter mes concours l'année prochaine d'auxiliaire puéricultrice. Pour l'instant, je cherche un boulot comme ça.
Non, ça s'entend, vous n'avez pas tout à fait le même accent toutes les deux.
Bah non.
Bah parce que moi je suis de Lyon et que Fabienne du sud-ouest. Fabienne, elle est venue passer quelques jours avec dans ma famille. Et ensuite, on a décidé de faire notre anniversaire ensemble. Mais cette fois-ci, chez Fabienne, en fait.
Toute ta famille est descendue le 15 mars à Mendit.
Bah, ses parents avaient organisé une énorme fête.
Il y avait tout le village qui était convié. Il avait organisé une cérémonie tout à l'église.
Votre papa ?
Ouais. Et il y avait des danseurs, des chanteurs basques et tout. Et après, il y avait, on est parti dans une salle pour faire un apéro géant. C'était trop chouette.
Non, il y avait beaucoup de monde. Et puis même, c'est des gens hyper chaleureux. Et... Non, c'était très...
Ils étaient tous contents pour nous. Enfin, heureux de partager ça. Et après, la famille, toute sa famille et ma famille, on est tous partis manger au restaurant.
Après notre anniversaire à Mendit, on a décidé de faire un voyage au Vietnam cette année. Le but de ce voyage, c'était surtout de retourner à l'orphelinat, enfin à l'hôpital où on est né, et essayer de retrouver les médecins ou infirmières qui se sont occupés de nous dès notre naissance. Et sinon, après, faire visiter à Fabienne les endroits assez bien du Vietnam. Parce que bon, ça allait faire la quatrième fois que j'y retourne. Mais pour Fabienne, c'était la première fois. Et puis j'avais bien envie de lui faire découvrir notre pays de natal. On est arrivé à Ho Chi Minh. Après, on allait à Muné.
Natrang.
Danang. Alors, Danang, là où il y a l'association de ma maman, c'est l'association des enfants des rues du Vietnam.
Et après, Hanoï. Hanoï,
ouais. Là où on est né, quoi. On souhaitait très fort de retrouver les infirmières et les médecins. Après, on n'était vraiment pas sûrs de nous. Mais en fait, la première infirmière sur qui on est tombé, on a montré une photo. Et sur cette photo, comme par hasard, c'était elle. C'est le destin, mais c'était elle. Et c'était il y a 22 ans. Maintenant, elle a 52 ans. À l'époque, elle avait 30 ans. Et maintenant, c'est la directrice de la maternité. Et du coup, elle a accepté de nous recevoir et on a pu discuter avec elle. Ensuite, Fabienne, on a retrouvé une autre infirmière qu'on appelle Madame Bigoudi, parce qu'elle avait des bigoudis la première fois qu'on l'avait vue. Et en fait, elle se souvient très bien de nous et elle se souvient comment était notre maman. Elle nous a dit qu'elle nous ressemblait énormément, sauf qu'elle était plus mince que nous. Et voilà, elle nous a dit qu'elle avait 19 ans, qu'elle était étudiante, c'est pour ça qu'elle nous a abandonnés. Elle a dit qu'elle souhaitait qu'on soit adopté par deux familles françaises, parce qu'elle a dit...
Qu'elle espérait qu'on se retrouve un jour.
Moi, mes parents, ils sont venus me chercher en première, et je pense qu'avec les parents de Fabienne, ils se sont croisés.
Et est-ce que vous aviez l'espoir de retrouver votre mère biologique ou
pas? En fait, le but de ce voyage, c'était pas de retrouver notre mère biologique, parce que ça, c'était complètement impossible. Après, maintenant qu'on a retrouvé les infirmières, on s'est dit, pourquoi pas retrouver notre mère, juste pour savoir ce qu'elle fait dans la vie, pour savoir à quoi elle ressemble, juste...
Contact physique, comme ça, sans... Parce qu'on lui en veut pas du tout, donc c'est juste la curiosité, voir comment elle est.
Non, on pourra pas la retrouver, parce que déjà, on connaît que son nom de famille, c'est Nguyen. Donc au Vietnam...
C'est comme Dupont en France.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Du coup, en fait, on s'est dit que si notre histoire se faisait médiatiser au Vietnam...
Je pense que là, c'est possible.
Il n'y a que elle, si elle veut nous retrouver, peut nous contacter.
Et votre père, alors biologique ?
Oh là.
Lui, c'est pas la priorité. Hein.
Non,
je sais pas où il est, lui. Vu que c'est... Enfin, ce que les infirmières nous disent, notre père est d'origine... il est américain. Donc du coup, là, ça reste d'être assez compliqué de...
De le trouver.
Ouais. Parce que je pense pas qu'il vit au Vietnam. Mm. On n'a même pas de prénom, de nom de famille. Hein. Non, c'est juste le
nom. Ouais, mais ta mère disait aussi, tu sais, l'autre fois, que c'était juste un flirt comme ça. Donc,
ça se trouve, il est milliardaire.
Il prend le temps quand c'est l'anglais. Hein. Ouf.
Ça, c'est
sûr. Pour le coup. Non.
Comment se fait-il que vos parents respectifs n'étaient pas au courant qu'il y avait une deuxième petite fille, une sœur jumelle?
En fait, ce sont les infirmières et docteurs qu'on a rencontrés à l'hôpital cet été au Vietnam qui nous ont dit qu'à l'époque, c'était difficile... pour des familles qui allaient venir adopter, d'avoir deux agréments. Et du coup, c'était préférable de séparer les jumeaux pour faciliter en fait l'adoption.
On a été séparés, dès qu'on est né, au final.
Je pense que si on s'est retrouvés, c'est que c'était le destin, en fait. Comme si on avait vraiment besoin l'une de l'autre, et pile au bon moment, quoi, au final.
Sculpture, les pieds sur terre. Secrets de famille, mensonges et filiation, deux histoires dans les pieds sur terre aujourd'hui. Deux jumelles se retrouvent. Bouchra, quant à elle, s'interroge. C'est la deuxième histoire, jusqu'à 14h.
Voilà, vous êtes chez moi. Voilà la chambre de mes enfants, de mes filles. Là, c'est la salle de bain, les toilettes. La chambre de ma mère, qui est fermée avec un cadenas. Là, la cuisine. Et là, c'est mon salon qui est fermé avec un cadenas aussi. C'est une pièce polyvalente, elle sert de tout. Une chambre à coucher, un salon à manger, des barras. Je dirais que je viens de déménager. De tous les cartons, c'est fouillé, quoi.
Et votre mère, alors, elle n'est pas là?
Non, elle n'est pas là. Elle est à l'hôpital. Ça fait un mois que je ne l'ai pas vue. Donc aujourd'hui, je vais aller la voir. Je vais voir ce qui se passe.
Et pour quelle raison votre maman ferme avec un cadenas sa chambre?
Elle a peur qu'on rentre dans sa chambre, peut-être. Qu'on la cambriole, ou je ne sais pas. Elle se méfie. Voilà. Elle ne veut plus que je rentre dans sa chambre, donc je ne rentre pas. Et moi-même, je ferme ma chambre aussi, hein.
Ça fait longtemps que ça dure?
Oui, ça fait longtemps, oui. Ça fait, depuis que j'ai su... C'est dur. C'est dur.
On s'assied?
Oui, on s'assoit un petit peu ici. Je vous ouvre la fenêtre. Je suis né à Rabat, 25-10-71. J'ai grandi avec ma mère et sa nièce, c'est-à-dire ma cousine, et sa petite fille, elle avait une petite fille, dans un quartier à Rabat, bidonville, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et j'étais à l'école là-bas. Et puis avec les années, je me suis aperçu que la personne avec qui je vivais, c'est-à-dire ma mère et sa nièce et tout l'entourage, ne m'aimait pas, quoi. J'étais toujours de côté, ou alors c'était à base de coups, des claques, des coups de pied, je sais pas moi. Ou alors je passais mon temps à aller chercher de l'eau à la fontaine. Ou aller faire les courses, à droite, à gauche. Une vraie petite causette, quoi. Si les choses n'étaient pas faites comme elle le voulait, elle, eh ben, je me prenais la serpillière, ou le balai, ou n'importe quoi sur la tête. Et j'avais tout le temps la tête en sang, hein, tout le temps je saignais. Comme si c'était de ma faute, si ça n'allait pas. Jamais de câlins, jamais de bisous. On m'était toujours de côté. Moi, j'étais tout le temps au fond de la pièce, quoi. Pourquoi je subis tout ça? Je sais pas. J'aimerais bien l'expliquer, mais j'ai pas de mots. Vraiment, j'ai pas de mots. C'est vrai qu'autour de moi, j'entendais dire des choses. C'était les voisins, les gens, la famille entre eux, je les entendais, mais je comprenais pas. Ils se disaient que si elle se comporte comme ça avec moi, c'est que c'est pas ma mère. Mais au fond de moi, moi, j'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible. Malgré qu'elle me fait ça, pour moi, c'est ma mère. Et après, je suis venu en France. Elle m'a emmené ici, en France. Elle habitait dans un hôtel avec son concubin. On habitait tous les trois dans une petite chambre, je sais pas combien de mètres carrés. Moi, je dormais par terre, comme au Maroc, hein. Et là, ça a recommencé. Si je pensais que ça allait mieux ici en France, que je pourrais aller à l'école, faire mes études comme tout le monde, et ben non. C'était la maltraitance, des choses pas bien, quoi. Pas bien, comme des attouchements par son concubin, tout. Moi, je comprenais pas pourquoi il faisait ça. Du coup, j'ai commencé à me défendre. Alors, j'avais toujours sur moi un couteau où je dormais avec un bâton en bois pour pas qu'il me... qui m'agresse sexuellement, quoi.
Et votre mère, comment elle réagissait à ce moment-là?
Ben, elle, soit elle restait là à regarder, elle pouvait pas me défendre, soit elle avait peur de lui, soit c'était pour son plaisir personnel, je sais pas. Ou sinon, elle sortait carrément de la chambre et elle me laissait avec lui. Oui. Mais grâce à Dieu, il a pas été jusqu'au bout, parce que j'ai tout fait pour rester... pour garder ma dignité, en fait. Par la suite, j'ai appelé la police, je l'ai mis à la porte parce que j'en avais marre qu'il nous maltraite tout le temps, parce qu'elle aussi, elle était maltraitée, hein, malgré ça. Hein. Elle se prenait des coups et j'étais toujours là pour la défendre. Mais quand c'était pour moi, elle levait pas le petit doigt.
Vous alliez à l'école à ce moment-là?
Non, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école plutôt parce que ça me tracassait trop l'histoire. J'arrivais plus à suivre. Je préférais plus aller travailler que continuer les études.
Et pendant toutes ces années, donc, vous avez vécu avec votre mère ici?
Oui, ça fait 32 ans maintenant que j'habite avec elle, je suis là avec elle, avec mes enfants et mon petit mari. Et elle n'aime pas mon mari, elle n'aime pas mes enfants. Tout ce qui est à moi, elle ne l'aime pas. Et elle n'a pas de geste de maman, pas de geste de grand-mère. Elle est dure. Ça fait 15 ans que j'attends un appartement. Je suis là avec elle, c'est plus fort que moi, j'ai pas le choix. Donc j'attends que de partir pour être bien après. Je veux juste avoir la paix, quoi. Je veux être bien et c'est tout. Ça fait des années que ça dure et j'en ai marre, quoi. J'en peux plus de cette histoire. J'aimerais bien savoir pourquoi je dois subir tout ça. Est-ce que je suis né pour subir tout ça? J'avais envie de lui poser la question, mais j'arrivais pas à l'exprimer, en fait. Un jour, je me trouvais chez la voisine, qui est très amie avec ma mère. J'étais là en train de discuter avec elle de sa maladie, tout ça. Et puis d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Et moi, j'ai pas compris pourquoi elle pleurait. Elle me tient la main comme ça. Elle me dit, Bouchra, j'ai quelque chose à te dire. Je lui dis, quoi? Tu vas me dire quoi? Elle me dit, je vais te dire quelque chose, mais il faut que tu restes calme. Tu ne bouges pas, tu pleures pas, tu fais rien. Je fais, d'accord, vas-y, dis-moi. Et elle me dit, voilà, Aïcha n'est pas ta vraie mère. Je lui dis, comment ça, c'est pas ma vraie mère? Je dis, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, moi, je te le dis. Mais moi, dans pas longtemps, je vais partir. Donc, je préfère te dire ça. Voilà, c'est pas ta mère. C'est pour ça, t'as vécu toutes ces années-là, la maltraitance avec elle, la misère, tout. Elle m'a tout expliqué que ma vraie mère, elle est au Maroc, mais elle m'a pas dit ni son nom, ni elle se trouve où, ni rien du tout, plus. Elle m'a fait cette révélation il y a 7 ans de ça. Après le décès de ma voisine, je suis parti voir ma mère direct, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, alors t'es pas ma vraie mère? Et elle se retourne et elle me dit, ah, c'est maintenant que tu ouvres les yeux? Point barre. Elle n'a pas ajouté plus. Sur le coup, franchement, j'ai pas réagi, quoi. Je suis parti, j'ai marché dans la rue. Fumé mes cigarettes derrière cigarette, j'ai bu une tonne de café, je me reminais la question, mais rien à faire, c'est toujours là, quoi. Je remine la question dans ma tête, quoi. Je veux savoir c'est qui ma vraie mère, c'est pourquoi elle fait tout ça, d'où elle m'a ramené, d'où je viens, parce que c'est sûr que je dois venir de quelque part. J'ai peur de la réponse. C'est ça le plus dur, comment ça va être ma réaction? Je sais pas, je me pose la question. Allez-y, installez-vous là. Voilà.
Vous me disiez quand on a démarré ensemble hier que votre maman était à l'hôpital.
Oui.
Est-ce que vous êtes allé la voir ?
Oui, je suis parti la voir, oui. Parce que ses amis m'ont appelé pour me dire ta maman, elle veut te voir. Et moi, je suis parti la voir parce que je pense qu'elle veut me dire des choses. Hein. Alors, je lui dis, tu veux me voir, je suis là. Maintenant, on va parler. On met les cartes sur table. Elle me dit, d'accord, je m'assois et tout. Et une fois que je suis assise, je commence à poser la question. Je lui demande, c'est qui mes vrais parents ? Je veux savoir c'est qui mes vrais parents. Elle me regarde comme ça dans le blanc des yeux et elle me répond pas. Comment je dois le prendre ? Bah, du coup, moi, je l'ai vu comme ça, sans réponse, sans rien. Bah, j'ai pris mes clics-clics-clacs, je suis parti. Je peux pas rester devant une personne qui répond pas, qui fait que de pleurer. Ça, j'arrive pas. J'ai du mal à voir ça, quoi. Alors, j'ai claqué la porte et je suis parti.
Porque sem você não sei nem chorar. Só chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor, amor sem cidade.
C'était Secrets et mensonges, un reportage de Jérôme Sandelat réalisé par Delphine Lemaire, au mixage Alain Joubert, un coup de main de François Connac pour cette rediffusion d'une émission qui a été diffusée pour la première fois le 14 octobre 2014. Depuis, Bouchra a déménagé. Elle est sans emploi. Quant à Siam et Fabienne, les sœurs jumelles, elles ont aujourd'hui 26 ans. Et depuis qu'elles se sont retrouvées, elles restent en contact, s'appellent et se voient régulièrement. Merci à elles, donc à Siam, à Fabienne, à Claire, à Jérôme Burin-Desrosiers, à Bouchra et à Samia. Jeanne Delecroix, c'est attachée de production des Pieds sur Terre. Et Camille Richir, c'est notre stagiaire. À 15h, retrouvez Manu Farine et sa compagnie des poètes. Mais dans quelques instants, entendez-vous l'écho Tiphaine de Rocchini.